Vous écoutez, on lit pour vous.
Mobilité des autochtones, le traité de Jay est-il en péril? D'après un texte de Stéphanie Cram de CBC Indigenous, paru le 5 février 2025 dans Espace autochtone. Depuis que le président américain Donald Trump a signé plusieurs décrets visant à renforcer les contrôles de sécurité à l'immigration, des membres des Premières Nations s'inquiètent de l'impact que cela pourrait avoir sur leurs droits issus du traité de Jay. Signé en 1794 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, le traité de Jay permet aux Indiens d'Amérique nés au Canada d'entrer librement aux États-Unis pour voyager, étudier, travailler, prendre leur retraite et immigrer. Toutefois, cela ne fonctionne pas dans l'autre sens, puisque le Canada ne reconnaît pas le traité et que celui-ci n'a jamais été codifié dans la législation canadienne. Selon Jason Henry, ancien chef de la Première Nation des Chippewa de Kettle, et Stony Point, dans le sud-ouest de l'Ontario, le traité reconnaît le droit au libre-échange et le droit d'aller rendre visite à sa famille ou à ses amis ou de mener une quelconque activité aux États-Unis. Il n'y a pas de moyen de nous arrêter tant et aussi longtemps que l'on considère que ce sont nos droits, a déclaré l'ancien chef Ojibwe. Gregory Ablavski, professeur de droit à l'Université Stanford, estime qu'il serait difficile pour Donald Trump de mettre un terme aux droits conférés aux Autochtones par le traité de Jay. Un décret ne peut pas, en vertu du droit constitutionnel, abroger un droit issu d'un traité, dit Gregory Ablavski. Il faudrait une loi du Congrès pour abroger un droit issu d'un traité. Par ailleurs, le droit de libre passage prévu par le traité de Jay a également été codifié dans une loi fédérale. Alors il s'agit également d'une question de droit fédéral, a-t-il expliqué. Qu'est-ce que le traité de Jay? Le traité de Jay, également connu sous le nom du traité de Londres, est une entente internationale entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, signée le 19 novembre 1794. Le texte a pour objectif de régler un certain nombre de désaccords commerciaux et points de discorde territoriaux survenus à la suite de la guerre d'indépendance des États-Unis, malgré le traité de Paris de 1783. L'article 3 du traité stipule que les deux puissances signataires permettent aux membres des Premières Nations de vivre de chaque côté de la frontière nouvellement établie, de la traverser librement et de ne pas être assujettis à des droits ou à des taxes sur leurs propres biens lors de la traversée. J'ai le droit d'être ici. En 2017, Désiré Denomi, originaire de la nation Cree, Pipikisis, en Saskatchewan, a déménagé au sud de la frontière pour vivre avec son partenaire, qui est originaire de la Première Nation Bois Forte Band of Chippewa, une communauté située au nord du Minnesota, près de la frontière. Nous avons décidé de nous retrouver à mi-chemin et de nous installer dans le Dakota du Nord, a-t-elle raconté. Pour déménager aux États-Unis, Mme Denomi avait besoin d'un certificat de naissance détaillé, de sa carte d'état civil et d'une lettre de sa communauté attestant qu'elle a au moins 50 % de sang autochtone, blood quantum. Une fois arrivée aux États-Unis, Mme Denomi est considérée comme une étrangère en situation régulière, ce qui lui donne le droit de travailler en tant qu'artiste de powwow, comme le fait toute sa famille. Je suis un peu nerveuse lorsque nous traversons la frontière dans un sens ou dans l'autre. C'est cette incertitude qui me préoccupe, a-t-elle confié. Cette dernière ajoute qu'elle a vu plusieurs publications sur les médias sociaux concernant les rafles de l'United States Immigration and Customs Enforcement. Elle affirme que si les agents l'interpellent à la frontière, elle a l'intention de défendre ses droits. « J'ai le droit d'être ici. Mes ancêtres, mes parents sont ici depuis des temps immémoriaux. Je tiendrai bon et je le crierai sur tous les toits s'il le faut », dit Désirée Denomi. La Fédération des Nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, FSIN, qui représente 74 Premières Nations de la province, a déclaré dans un communiqué de presse la semaine dernière qu'elle avait reçu des témoignages relatant que des agents frontaliers n'avaient pas respecté les droits conférés par le traité de Jay. La FSIN veillera à ce que les gouvernements du Canada et des États-Unis soient tenus responsables du respect des droits des peuples des Premières Nations aux frontières, a précisé le communiqué. Les Premières Nations ont toujours franchi pacifiquement la frontière et cet accord historique doit être maintenu et respecté. Le traité de Jay, la solution aux tarifs douaniers. Face à la menace des droits de douane, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est adressé la semaine dernière aux chefs autochtones, leur demandant de défendre les intérêts du pays auprès de leurs homologues américains. Mais le Conseil Mohawk de Kanawake a déclaré la semaine dernière dans un communiqué qu'il n'apportera pas son soutien à un gouvernement qui a toujours méprisé les droits des Autochtones et qui a participé à des tentatives systémiques d'effacement des peuples des Premières Nations. Pour sa part, l'ancien chef Ojibwe Jason Henry estime que le Canada ne devrait pas se contenter de demander aux Premières Nations de faire pression en son nom. Il devrait plutôt reconnaître que les Premières Nations pourraient être la solution pour contourner les droits de douane. Nous avons le libre-échange. Aidez-nous à le faire respecter. Reconnaissez nos droits issus du traité Jay, a réitéré M. Henry. C'était Mobilité des Autochtones, le traité de Jay est-il en péril? D'après un texte de Stéphanie Cram de CBC Indigenous, paru le 5 février 2025 dans Espace Autochtone.
J'en appelle à la qualité en éducation, un texte de Marie-Hélène Forgette, paru le 30 janvier 2025 dans Le Devoir. Notre école va mal. Nos gouvernements manquent de reconnaissance envers le travail du corps enseignant, dont on sait les conditions de travail déplorables. Les syndicats des enseignants se soucient à juste titre des droits de leurs membres, mais militent contre un ordre professionnel et négocient pour le moins de formation continue possible. Certains enseignants refusent d'apprendre. Ils pensent en connaître assez pour faire la job. C'est une aberration insupportable que d'enseigner et de mépriser l'apprentissage. Ceux qui se destinent à l'enseignement ne reçoivent pas toujours une formation de qualité, que ce soit à cause d'un gouvernement qui veut revoir à la baisse les exigences de la formation ou à cause de certains professeurs et chargés de cours qui s'improvisent spécialistes en tout. Eh bien, non. Tout ne s'enseigne pas par n'importe qui ni n'importe comment. En ces temps de grande noirceur qui menace nos démocraties chèrement acquises par nos aïeuls et sagement préservées par nos mères et nos pères, l'éducation n'a jamais été aussi importante. Et, tout professionnels que nous sommes, nous ne pouvons rester les bras croisés à nous plaindre de nos conditions de travail. Certes, elles sont exécrables. Ce n'est pas une raison de baisser les bras. J'en appelle à la qualité. J'appelle à prendre la mesure de ce qui nous appartient dans le succès ou l'échec de nos élèves et de nos étudiants. J'appelle à développer de l'estime pour nos élèves et nos étudiants, ce qui veut dire faire appel à leur intelligence, à leur capacité de penser, de réfléchir, de rechercher, de manipuler, d'essayer, de se tromper et de recommencer pour comprendre pourquoi. Il y va de leur avenir, car ils devront être bien équipés pour faire face au monde de demain. Tous les élèves, sans exception, sont capables d'apprendre, à la condition que nous les placions dans les conditions qui le leur permettent. Considérons leurs difficultés comme étant d'abord nos défis. J'en appelle à la qualité. J'appelle à faire preuve de jugement critique d'abord envers nous-mêmes et notre profession, à sortir de nos chambres d'écho pour cesser de tourner en rond. Mettons-nous nous-mêmes sur le mode de l'apprentissage. Travailler en équipe avec des collègues meilleurs que soi. Organiser des cercles de discussion avec des pairs. S'essayer à une nouvelle pratique par année. Faire appel aux conseillères pédagogiques et être exigeant envers elles. S'intéresser aux pays dont le système éducatif est performant et chercher à comprendre pourquoi. Lire sur l'éducation en commençant par les programmes que l'on enseigne. Je suis toujours secoué d'entendre un enseignant dire ne l'avoir jamais lu et le pourfendre pourtant. Pourquoi acceptons-nous encore de soumettre nos élèves à des bourrages de crâne qui ne servent qu'à les préparer à des examens alors que d'autres pratiques d'évaluation existent et ont fait leurs preuves? Comment en vient-on à croire en des recettes miracles censées fonctionner pour tous les élèves alors que chacun d'eux est unique et que l'apprentissage est si complexe? Sommes-nous en train de faire de l'école une chaîne de montage qui produit des citoyens dépourvus pourvu qu'ils soient rentables? Peut-être en sommes-nous rendus à ne pas savoir comment faire autrement? L'heure serait grave. J'en appelle à la qualité en éducation. J'appelle à viser l'excellence dans nos gestes quotidiens. J'appelle à faire œuvre utile de notre travail, à prendre les moyens qui sont à notre portée pour devenir tous les jours plus compétents et le rester. Choisir l'enseignement vient avec des responsabilités individuelles et collectives. Ne pas les assumer, c'est trahir un serment que nous ne sommes pas toujours conscients d'avoir fait. Mais les mirages de ceux qui ordonnent ne sont débusqués que grâce à des têtes bien faites. Pour que l'éducation permette à nos enfants et à nous-mêmes de savoir faire face aux défis qui nous attendent, j'en appelle à de la qualité dans toutes les classes du Québec. Pour comprendre qui nous étions et qui nous sommes, pour choisir ce que nous deviendrons, pour donner le meilleur à tous nos enfants. C'était « J'en appelle à la qualité en éducation », un texte de Marie-Hélène Forget, paru le 30 janvier 2025 dans Le Devoir.
L'intégration continentale a une longue histoire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Un texte de Stephen Hye, paru le 17 février 2025 dans Le Devoir. Donald Trump semble résolu à brandir le bâton des tarifs douaniers ruineux chaque fois qu'il veut obtenir quelque chose d'un ami ou d'un ennemi. Aucun pays, à l'exception du Mexique, n'est aussi vulnérable que nous sur le plan économique. Comment sommes-nous arrivés là et que devrions-nous faire maintenant? L'intégration économique continentale a une longue histoire, mais elle a pris différentes formes. Le Canada s'est industrialisé grâce au nationalisme économique du premier ministre Sir John A. Macdonald. Dans ses grandes lignes, la politique nationale mise de l'avant en 1878 repose sur la formation d'un marché national protégé grâce à une immigration massive et à la construction d'un chemin de fer transcontinental reliant les collectivités éloignées du pays, entouré d'un solide mur tarifaire afin de permettre l'émergence d'entreprises nationales. La dépossession et le confinement des populations autochtones font également partie intégrante du processus. Le mur tarifaire de John A. Macdonald finit par contraindre les entreprises américaines à bâtir des succursales au Canada. Ainsi, en 1970, les deux tiers des 100 principaux fabricants canadiens sont détenus par des étrangers. À cet égard, le Canada fait figure d'exception dans le Nord industrialisé, car son taux d'investissement direct étranger se compare à celui de l'Argentine et du Sri Lanka plutôt qu'à celui des États-Unis ou du Royaume-Uni. Inquiète d'être économiquement dépendante des États-Unis, une nouvelle génération de nationalistes soulève alors un certain nombre de préoccupations concernant l'économie de succursales. Elle fait valoir que les décisions importantes des entreprises sont presque toujours prises en dehors du pays et que les activités de conception et d'ingénierie des multinationales sont concentrées aux États-Unis. En fait, les filiales canadiennes sont pour la plupart exclues du marché de l'exportation. Elles sont donc plus petites et produisent une vaste gamme de produits pour le marché intérieur au lieu de bénéficier d'économies d'échelle. Or, malgré son efficacité économique, l'économie de succursale n'a pas que des inconvénients. Elle offre des salaires conventionnels et une certaine sécurité d'emploi aux travailleurs d'usines diversifiées et les employeurs peuvent difficilement déplacer la production au-delà des frontières. Les gouvernements peuvent également réglementer sans craindre d'effrayer les investisseurs étrangers. Les avantages de la croissance économique sont donc partagés dans une mesure sans précédent. C'est une des raisons pour lesquelles les décennies d'après-guerre constituent une ère de prospérité pour tant de gens au Canada. Le secteur de l'automobile est exceptionnel dans la mesure où il est intégré très tôt grâce au pacte de l'automobile conclu en 1965. Ainsi, les trois grands constructeurs automobiles peuvent rationaliser leur production et maximiser leur efficacité. Toutefois, le Canada réussit à obtenir la garantie qu'autant de voitures et de camions seront construits au pays qu'il s'y en vend. Les politiques publiques sont importantes. Lorsque l'État doit intervenir pour renflouer Chrysler, alors en faillite, le Congrès américain exige que d'importantes concessions soient accordées aux syndicats. Le Canada, quant à lui, prend la décision judicieuse de rendre son renflouement conditionnel à de nouveaux investissements massifs des entreprises sur son territoire. Par conséquent, les années 1980 sont marquées par l'expansion du secteur automobile canadien alors qu'il est en chute libre au sud de la frontière. Sous l'effet de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, G-A-T-T, la libéralisation du commerce mondial progresse à un point tel que les importations à bas prix entraînent le déplacement de milliers de travailleurs canadiens. Le Canada est alors contraint de faire des choix difficiles. La négociation par Brian Mulroney de l'accord de libre-échange entre Canada et les États-Unis en 1987 et la défaite du nationalisme économique lors des élections fédérales de l'année suivante représentent un tournant dans l'histoire du Canada. Presque du jour au lendemain, l'économie de succursale du Canada perd toute utilité. Les multinationales restructurent leurs activités pour maximiser leur efficacité et dressent les gouvernements les uns contre les autres afin d'obtenir de nouveaux investissements. En Ontario, 300 000 travailleuses et travailleurs perdent leur emploi entre 1989 et 1992. Et l'expansion du libre-échange au Mexique en 1992 bouleverse encore la donne. Les communautés ouvrières subissent de plein fouet la restructuration industrielle. Il n'y a rien de juste dans tout cela. Les conservateurs et les libéraux fédéraux restreignent l'admissibilité à l'assurance-emploi et réduisent les prestations, forçant bien des gens à recourir aux programmes provinciaux d'aide sociale. Chose incroyable, des personnalités politiques de toutes les tendances traitent la pauvreté comme une faute morale plutôt que comme un phénomène structurel. Nous voici donc, une génération plus tard, aux prises avec des choix difficiles et encore sous une autre vague de changements économiques. Or, nous devons nous demander qui assumera le fardeau de cette réorientation de notre économie. Déjà, nous entendons un chœur de voix clamer de plus en plus fort que nous devons réduire les salaires, les taxes et la bureaucratie pour assurer notre concurrence à l'échelle mondiale. C'est une vieille rengaine qui a produit une extrême inégalité des revenus. En effet, si Ronald Reagan n'avait pas réduit le taux le plus élevé d'imposition du revenu de 70 % à 28 % nous ne verrions pas aujourd'hui des milliardaires faire la pluie et le beau temps. À l'avenir, notre stratégie économique doit viser à maintenir le niveau de vie de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. C'était l'intégration continentale à une longue histoire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Un texte de Stephen Hye, paru le 17 février 2025 dans Le Devoir.
Encore peu de villes réglementent le chauffage au bois. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 12 février 2025 dans la presse. Principal responsable des épisodes de smog hivernal, le chauffage au bois reste peu réglementé dans le Grand Montréal, constate la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, qui tiendra une consultation publique sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'air. Ce qu'il faut savoir. La Communauté métropolitaine de Montréal veut sonder les citoyens sur la nécessité d'en faire davantage pour la qualité de l'air. Encore très peu de villes du Grand Montréal réglementent le chauffage au bois. Dans le secteur résidentiel, ce type de chauffage est responsable du cinquième des émissions de particules fines dues à l'activité humaine. Selon un rapport publié le mardi 11 février 2025 par la CMM, qui a passé en revue les règlements des 82 villes du Grand Montréal, l'encadrement du chauffage au bois est hétérogène, c'est-à-dire qu'il varie d'un secteur à l'autre. Seulement 32 des municipalités examinées ont des règlements pour encadrer l'installation ou l'utilisation de foyers intérieurs au bois. Du nombre, 13 villes restreignent l'utilisation des foyers au bois intérieur plus fortement que le règlement provincial et 19 interdisent leur usage pendant les épisodes de smog. En août 2024, l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, avait pourtant recommandé aux municipalités en périphérie des grands centres de durcir leur réglementation sur les appareils de chauffage. L'équipe de chercheurs avait conclu qu'il serait possible de réduire de 30 % les concentrations journalières moyennes de combustion résidentielle au bois s'il y avait un virage généralisé vers des appareils certifiés. Selon le ministère de l'Environnement, le chauffage au bois résidentiel est actuellement responsable du cinquième des émissions de particules fines dues à l'activité humaine. C'est la principale source d'émissions de particules fines durant la saison hivernale, indique le ministère. Au cours des dernières années, la norme québécoise est passée de 4,5 grammes par heure de particules fines à 2,5 grammes par heure. Depuis, certaines villes ont durci le ton. En octobre 2018, l'administration de Valérie Plante a notamment banni l'utilisation d'appareils non certifiés ou émettant plus de 2,5 grammes par heure de particules fines. Sur la rive sud, la ville de Longueuil a déposé un règlement similaire à la fin de l'année 2024, mais pour l'instant, il touche seulement l'installation de nouveaux foyers ou de foyers remplacés. Les villes de Laval et de Québec ont également un règlement qui entrera en vigueur en 2026. La capitale compte interdire les foyers d'ambiance dès 2030. Vers une audience publique. En entrevue avec la presse, Le directeur de la transition écologique et de l'innovation à la CMM, Nicolas Milot, affirme que l'impact qu'aurait une restriction des vieux poêles à bois dans les régions plus éloignées ou rurales devrait être exploré davantage. On est rendu à se demander quel impact réel ça aurait sur les épisodes de smog, explique-t-il. Toute restriction de particules fines est potentiellement pertinente, mais il faut dresser un inventaire des poêles, faire des inspections. Il faut qu'on documente davantage les effets dans les milieux. Le 10 mars 2025, la CMM tiendra une séance d'information publique sur la combustion au bois et la qualité de l'air. La Direction régionale de santé publique sera sur place, tout comme la Ville de Montréal, qui présentera le bilan de la qualité de l'air sur le territoire de l'agglomération. Les citoyens qui veulent s'exprimer sur la question peuvent consulter le site de la CMM pour avoir plus de détails. La séance se tiendra au siège social de l'organisme sur l'avenue McGill College. Des compromis possibles? M. Milot reconnaît que l'idée d'interdire les poêles à bois ou de restreindre leur utilisation ne suscite pas nécessairement un grand enthousiasme dans les populations, ce qui explique pourquoi beaucoup de municipalités hésitent à agir. C'est un sujet sensible pour les élus, on le sait, note-t-il. N'empêche, des compromis existent pour implanter le changement de façon graduelle, estime-t-il. On peut imaginer, par exemple, que des poêles plus vieux puissent demeurer, mais ne puissent être utilisés qu'en cas de panne d'électricité. L'important, c'est de voir les impacts de façon globale. Il n'y a pas vraiment eu d'épisode de smog à Blainville dans les dernières années, mais est-ce que les foyers de Blainville contribuent aux épisodes de smog dans d'autres secteurs? C'est une question qu'on doit se poser, ajoute le gestionnaire. M. Milot espère surtout que les enjeux de qualité de l'air seront pris au sérieux dans les prochaines années. Après, est-ce que ce sont des interdictions totales ou des limites à l'utilisation qui seront privilégiées? Ce sera le travail devant nous qui nous permettra de le dire. Mais je pense qu'on peut, de façon réaliste, s'attendre à limiter au maximum les impacts en matière de santé publique, conclut Nicolas Milot. C'était « Encore peu de villes réglementent le chauffage au bois », un texte d'Henri Ouellet-Vézina, paru le 12 février 2025 dans La Presse.